Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Nous sommes le 21 novembre 2024, il est 6h avant minuit, vous êtes bien sur Syllab. Aujourd'hui, on a eu de la neige à Rennes, je comprends mieux pourquoi Cyriane, Eva et Aglaé étaient surexcitées hier. Pire que les enfants, elles sentent ces choses-là venir. Bref, c'était juste une dédicace. Je voulais vous faire passer quelques petits messages. Les 28, 29 et 30 novembre, c'est le festival Culture Barbare. Syllab vous propose de remporter 2 places par soir et par concert pour ceux qui sont proposés au Melody Maker, à l'Amrock et à Grabuge. Pour les gagner, vous aurez besoin d'un MDP, un mot de passe, que je vous donne tout de suite. Il s'agit de Conan, je répète Conan. Et puis, puisqu'on est généreux et généreuse, on vous propose aussi de remporter 1 place pour une des soirées des trans au Parc Expo, les 5, 6 et 7 décembre prochains, ou un CD compil collector de la prog de cette 46e édition. Pour ça, il vous faudra un autre mot de passe, je sais, il y a beaucoup de trucs à retenir. Le mot de passe, c'est Goéland. C'est facile, il est sur la fiche des tranches cette année. Pour en savoir plus sur les concours et pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr, rubrique concours du moment. Tout de suite, le flash de Cyriane.
Crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Tels sont les motifs retenus par les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Des crimes commis au moins du 8 octobre 2023 et au moins jusqu'au 20 mai 2024, explique la Cour. Le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, est lui aussi visé par un mandat d'arrêt pour les mêmes raisons. La mort présumée de ce dernier avait pourtant été annoncée en août dernier par l'armée israélienne. Au même moment, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu à Gaza. 27 millions d'euros. C'est la somme d'un appel d'offres lancé par le ministère de l'Intérieur pour des grenades de désencerclement. Révélée par le magazine indépendant Politis, l'offre permettrait de mettre à la disposition de la police nationale et la gendarmerie entre 120 et 360 000 de ces armes, des armes classées comme matériel de guerre. Un appel d'offres 15 fois supérieur au précédent, passé en 2019 et ayant coûté à l'État 1,4 million d'euros. L'annonce s'inscrit dans un contexte d'armement important de l'État. En effet, lors d'une précédente commande de grenades assourdissantes et lacrymogènes, Beauvau avait dépensé à l'époque pas moins de 78 millions d'euros. En ce moment, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont marqué un tournant sur le sujet, bien au-delà de la performance sportive. Inclusivité, accessibilité et participation active des personnes en situation de handicap à tous les niveaux. Cet événement a permis de changer les regards et de faire évoluer les perceptions, notamment dans le monde du travail. Mais quelles leçons tirer de ces initiatives ? Ah, grande question. Pour en parler, Marilyn a recueilli le témoignage de Ludivine Munot, responsable de l'intégration paralympique au sein du comité de Paris 2024.
Pour moi, l'enseignement le plus important qu'on peut avoir suite aux Jeux paralympiques, c'est déjà d'avoir pu construire un village totalement inclusif à la base, sans coût supplémentaire. Tout simplement parce que les exigences du handicap ont été prises en compte dès la construction des plans. Ce qui est important aussi dans cette dimension d'héritage, c'est aussi de pouvoir organiser dans une ville qui, à la base, a des défis d'accessibilité, pouvoir organiser les événements très inclusifs. J'ai vraiment senti un changement de regard auprès du grand public. Déjà, simplement en lisant les posts de mes collègues, de mes homologues en situation de handicap, j'étais très satisfait de voir que les gens n'hésitaient pas à proposer de l'aide ou tout simplement étaient souriants et simplement accessibles dans la démarche. Donc moi, je pense que le regard a déjà changé. Le fait que le sport paralympique soit connu de tous, que les gens se soient émerveillés devant la médaille d'or d'Aurélie Aubert et également celle du Cécifoot, qui sont vraiment pour moi les 2 moments forts de cette compétition, a ouvert vraiment les chakras.
Ludivine nous partage son avis sur les politiques publiques et leur impact et a un message à adresser aux dirigeants des entreprises.
On a forcément envie de faire plein de choses en termes de politique publique. Alors moi, j'aimerais bien si un jour l'État souhaite remettre à jour la loi de 2005, on pourrait tous ensemble travailler dessus puisque les règles sur les permis de construire ont évolué entre-temps. Donc, il faudrait pouvoir mettre à jour cette loi de 2005. Il faudrait aussi continuer avec l'accompagnement que fait aujourd'hui la GFIP, qui aide les personnes en situation de handicap à se maintenir ou même à trouver un emploi. Et puis aussi, il faut continuer tous les forums d'embauche de personnes handicapées comme Hello Handicap, ou également cette semaine dédiée pour parler du handicap dans les entreprises. C'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir. Et puis enfin, il faut inciter les entreprises qui embauchent des personnes handicapées à valoriser justement tout ce qu'elles font au bénéfice des personnes qui ont des besoins différents. Un très grand message pour tous nos dirigeants d'entreprise qui hésitent encore sur le sujet de la diversité et de l'inclusion. C'est vraiment qu'il faut vous faire confiance, il faut vous lancer, parce que vous n'imaginez pas tous les talents que peuvent avoir vos collaborateurs avec des besoins spécifiques, et comme la diversité, elle est riche dans un collectif de travail. Leur confiance et surtout écouter leurs besoins. Et c'est inutile de vous projeter vous-même sur le besoin qu'aurait telle ou telle personne. C'est à elle de l'exprimer, elle est mieux placée que tout le monde pour le savoir.
Merci Marilyn d'avoir recueilli ce témoignage. Ouest France et X, c'est terminé. Le réseau social est devenu une plateforme où pullule la désinformation, où il est impossible d'échanger sans que cela provoque des insultes, du harcèlement, des menaces de mort. Rien d'autre que du bruit et de la fureur, a expliqué dans les colonnes de La Croix François-Xavier Lefranc, président du directoire du journal le plus tiré de France. Ce départ fait donc suite au rachat de la plateforme par Elon Musk en 2022, véritable tournant aux yeux de la rédaction du quotidien. À l'étranger, le journal britannique The Guardian et le quotidien espagnol La Vanguardia ont eux aussi pris cette décision. Ouest France est le premier journal du pays à quitter la plateforme. On vient de perdre une grande dame de la BD. Jean nous parle de Bernadette Després, dessinatrice de la mythique bande dessinée Tom Tom et Nana, décédée mardi dernier à l'âge de 83 ans.
Et si pour oublier la vague de froid, les guerres ou l'élection de Donald Trump, on se plongeait dans la chaleur réconfortante des souvenirs d'enfance? Mardi dernier, l'édition jeunesse française perdait une de ses icônes, Bernadette Després. La dessinatrice de la série Tom Tom et Nana est morte à 83 ans dans sa maison de Givrennes, dans le Loiret. Née en 1941 à Paris, Bernadette Després étudie le dessin à l'école et atelier d'art pour les jeunes filles. Dès la fin de ses études, elle s'oriente vers l'illustration jeunesse qu'elle ne quittera plus. Sa bibliographie compte des albums, des livres-jeux, des livres musicaux, mais l'aventure de sa vie, c'est Tom Tom et Nana. En 1977, l'éditeur Bayard lance son magazine phare, J'aime lire. Il comprend un roman illustré, quelques pages de jeux et une bande dessinée à la fin. Cette BD, c'est Tom Tom et Nana, scénarisée par Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg. Tom Tom et Nana sont les deux plus jeunes enfants de la famille Dubouchon, qui tient le restaurant À la bonne fourchette. Dans cette BD, on suit la vie quotidienne de cette famille, mais c'est bien les deux frères et sœurs qui sont les vedettes, grâce à leur tendance à mettre la pagaille partout où ils passent. Une pagaille jubilatoire qui rend les adultes chèvres. Les enfants, ça court, ça joue. Il faut montrer le côté chahuté de l'enfance. Avec Tom Tom et Nana, j'ai dessiné mon enfance rêvée, déclarait la dessinatrice. Et cette enfance a fait rêver bien des marmots en 32 ans de publication dont J'aime lire, 34 albums, une série animée en 98 et une deuxième série en 2019. Si les scénaristes arrêtent d'écrire deux nouvelles histoires de Tom Tom et Nana en 2009, Bernadette Després continue de son côté de dessiner ses personnages au cours d'animations scolaires. Elle fait aussi régulièrement visiter sa maison, véritable musée consacré à Tom Tom et Nana, gamins de papier qui ne vieillissent jamais mais qui ont fait grandir des milliers de lecteurs et lectrices avec leurs bêtises.
Et Jean, il me semble qu'il y a un doc à voir sur le sujet.
Alors, c'est pas un doc, c'est un reportage de Télérama qui avait été fait chez Bernadette Després en 2018, qui a été republié hier. C'est très touchant, c'est très bien écrit et ça dépeint très très bien le personnage de Bernadette Després.
Merci Jean pour avec cette plaisir. Recommandation et pour ce papier. Et en parlant de BD d'ailleurs, jeudi dernier avait lieu la 4e édition des 24 heures de la bande dessinée à la bibliothèque universitaire de Rennes 2. Cet événement était organisé par Tirage de Tête, une maison d'édition associative créée en 2017 par des étudiants et étudiantes en master métier du livre et de l'édition. Les 24 heures de la BD ont notamment pour but de financer la publication de leurs devoirs de fin d'études, à savoir une collection fictive. Aglaé s'y est rendu.
Milieu d'après-midi, ouverture des portes au public des 24 heures de la BD. 16 auteurs et autrices s'affairent sur leur planche de dessin. Caroline, bénévole chez Tirage de Tête, nous parle de l'événement.
Les 24 heures de la BD, du coup, c'est un projet qui se fait au sein du master. Cette année, c'est avec l'ABU, donc ça se passe à l'ABU de Rennes 2. Et l'événement, c'est des illustrateurs et illustratrices qui dessinent pendant 24 heures, 24 planches d'une BD, sur un sujet et avec des contraintes qu'on leur a données. Donc cette année, le thème, c'est enquête. Donc c'est séparé, c'est enquête. Les contraintes, du coup, il y en a deux. La première, c'est d'avoir la première case qui est la même que la dernière. Et la deuxième, c'est d'avoir au moins une double page dans la BD.
Léo Brett, la tête d'affiche, apprécie tout particulièrement ces 24 heures.
Alors moi, c'est un événement que je fais depuis plusieurs années. J'aime le défi des 24 heures, essayer de trouver une histoire rapidement, essayer de la dessiner vite, être rassemblé avec plein de personnes qui font de la bande dessinée.
Parmi les artistes invités par Léo Brett, Soline Morin nous explique comment elle a interprété le thème.
Le thème d'aujourd'hui, au début j'étais un peu perdue, puis après en fait j'ai repris des personnages que j'utilise tout le temps, et du coup le personnage c'est une fille ange avec des ailes d'ange sur la tête, mais elle se réveille un matin et elle a perdu son auréole, et du coup elle le cherche partout, et après voilà, je vais pas spoiler, mais en gros l'antagoniste c'est un serpent chaussette. Ma BD je l'ai appelée, j'ai déjà oublié le titre, Enquête de l'auréole mystique.
Son style s'inspire des mangas et plus particulièrement des shoujo.
C'est mignon, il y a plein de petites paillettes. Souvent je mets en scène des personnages féminins qui sont mignons, qui sont sensibles, qui pleurent tout le temps et qui sont un peu dramatiques. Je pense que c'est une part de moi.
Le livre des 24 heures de la BD sera disponible dans le courant de l'année prochaine dans les librairies rennaises et sur le site de Tirage de Tête.
Merci Aglaé pour ton reportage. Suspense, amour et roulette russe. C'est le pitch du projet de court-métrage Que le diable m'emporte, imaginé par Alexandre Martineau, un jeune réalisateur breton soutenu par l'association La Courte Prod, une création influencée par le film noir et qui a besoin de vous. Alors si vous souhaitez voir ce projet ambitieux et déterminant pour cet assaut se concrétiser, faites un don. Rendez-vous sur la page Ulule du court-métrage Que le diable m'emporte. Et en attendant la sortie du court-métrage, pourquoi ne pas aller écouter un petit brin de musique ? Ce samedi, l'ensemble musical des Cheminots Rennes propose son concert de Sainte-Cécile. Seront présents à l'auditorium du lycée de l'Assomption de 16h à 18h30, le club rennais des accordéonistes cheminots et Music & Co, un orchestre d'harmonie. Au programme, musique de film et de comédie musicale, tango et variété. Prix des billets, 8€ en pré-vente, 10€ sur place. Un bout de la Maison Blanche chez vous.
Oula,
c'est possible. Bon, ok, j'avoue, pas la vraie.
La maison de Trump ?
La maison de Trump, malheureusement, maintenant.
Non, je te crois pas.
Mais non. J'avoue, c'est pas la vraie, mais c'est celle de Plélan le Grand. Bon, ok, elle n'a rien à voir avec les États-Unis. Elle s'est fait appeler de la sorte juste parce qu'elle est vieille et blanche. Et vieille, ça veut pas dire stylée, hein. Mais par contre, ça rime avec démolition. Alors la municipalité a décidé de léguer l'héritage de cette bâtisse des années 20 à, qui sait, vous, peut-être. Seront donc mis aux enchères deux cheminées en marbre, une marquise avec potence, un escalier en granit, un portail, un portillon, une girouette en zinc ou encore des éléments de frise art déco en faïence
on
de
se
la façade.
Au TLH.
C'est l'esprit recherché.
Okay.
Rendez-vous en ligne sur le site agora.store et agorastore.fr à partir du 9 décembre prochain pour faire vos meilleures offres et vous la péter la prochaine fois que quelqu'un complimentera votre déco. Cette petite cheminée, ouais, je l'ai chinée dans une
à Plélan,
je l'ai chinée à Plélan en bressaillante,
merci Cyriane d'Amido pour ses conseils déco. Nous avons un invité en plateau ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Chemise à carreaux, ouverte sur un t-shirt blanc, barbe bûcheronne. À la canadienne, Ulrich Marchand, responsable de l'antenne de football Écologie France de Rennes, est parmi nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez nous parler dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Peut-être que pour commencer, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Football Écologie France ?
Alors Football Écologie France, pardon, c'est une association qui existe depuis 5 ans maintenant, qui est une association nationale avec des antennes régionales. Et donc l'objectif, c'est de passer par le football, qui est un vecteur ultra populaire, pour toucher et sensibiliser le public sur la transition écologique et solidaire, bien sûr.
Très bien. Et donc, quel type de partenariat l'association compte-t-elle à ce jour ?
Alors, au national, on travaille beaucoup avec l'ADEME, notamment pour le développement d'outils de sensibilisation qu'on a. On a maintenant un partenariat avec la Fédération française de football, du coup, qui s'est concrétisé il y a peu. On n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, mais pour l'instant, c'est en bonne voie. Et après, on travaille avec plusieurs fondations qui nous financent aussi. Et puis des acteurs de l'environnement. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Rebond, par exemple, qui fait des ballons en matière recyclée, avec Nolt et Siona, qui sont des entreprises qui font des maillots en matière éco-responsable. Donc voilà ce qu'on a comme partenaire.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler des succès ou initiatives qui ont marqué le parcours de l'association ?
Alors, succès, on a un outil de sensibilisation qui est plutôt bien développé, qui s'appelle la fresque écologique du football. Donc c'est un outil qui permet en quelques heures, enfin en une heure et demie à peu près, le temps d'un match de foot, de sensibiliser le public au lien entre football et écologie. Après des grands événements, on a été cet été présent sur les JO, sur les fanzones des JO, que ce soit sur Paris ou que ce soit plutôt en région. Et sinon, l'accompagnement de clubs au quotidien, et principalement là sur la zone bretonne, l'accompagnement du Stade Brestois, club professionnel du coup, avec qui on travaille depuis plusieurs années sur leur démarche de transition écologique et sur leur stratégie RSE.
D'accord. Et donc, pour revenir sur les antennes régionales, quel est leur rôle et comment ça se concrétise auprès des clubs ou autres publics ?
Alors du coup, moi je suis responsable de l'antenne de Rennes, mais j'interviens sur toute la région Bretagne. Et donc le but d'une antenne, c'est vraiment d'être au plus près des territoires, d'avoir une approche plus territoriale et donc de pouvoir être en contact directement avec les clubs et les accompagner, que ce soit sur leur démarche ou que ce soit sur des actions concrètes. Donc voilà, d'être vraiment présent pour eux et aussi de faire une veille territoriale, que ce soit sur des financements ou sur des projets autres, pour pouvoir leur transmettre et les accompagner là-dessus. Et puis aussi développer des actions avec des acteurs locaux. Récemment, au mois de septembre, avec un club de Saint-Malo, on a développé une action en lien avec l'équipière, la ressourcerie sportive sur Rennes, pour récupérer des équipements au sein du club, et du coup qui pourront être remis ensuite en vente au magasin de l'équipière à bas prix. Et en tout, on a récupéré 25 kilos d'équipements.
D'accord, très bien. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Et donc comme disait on est en plein la semaine européenne de réduction des déchets. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été menées en ce sens cette semaine à Rennes, en Bretagne ou même au niveau national ?
Alors sur cette semaine, pas forcément. Sur Lyon, il y a mon collègue sur Lyon qui lui est en ce moment dans une démarche qui s'appelle mon club de sport zéro déchet, en lien avec la région sur son territoire. Donc vraiment travailler avec 10 clubs de sport sur la réduction des déchets au sein des clubs. Sinon, nous, au mois de septembre, le World Cleanup Day, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui est la journée internationale du ramassage des déchets. Et donc ça, on encourage vivement tous les clubs adhérents à le faire, et du coup à le faire avec leurs jeunes adhérents, leurs jeunes licenciés plutôt.
Très bien. Et donc tu disais que tu étais responsable donc, de Rennes, mais aussi de Bretagne. Est-ce que tu peux nous parler du bilan de cette année 2024, hormis les Jeux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se structure l'antenne? Et quelles sont les prochaines étapes?
Ouais. Alors moi, je suis arrivé fin décembre 2023, donc j'ai vraiment vécu toute l'année 2024. Quand je suis arrivé, il y avait déjà des clubs adhérents. Aujourd'hui, on en accompagne 10 au total. Donc on a 10 clubs adhérents, ce qui est 8 de plus qu'en 2023. On a développé plusieurs actions concrètes de terrain, donc on a eu plus de 35 actions concrètes avec les clubs. Du coup, un club professionnel phare avec le Stade Brestois, qui est celui qui se développe le plus sur le sujet de la transition écologique au national. On a aussi accompagné deux tournois internationaux, tournoi de Guy Primessac de la Champions League U10, avec des clubs qui venaient d'Angleterre, Manchester City, du Portugal, et le club de Dirinon aussi, le tournoi international de Dirinon, pardon, qui accueillait plus de 80 équipes. Et donc vraiment, l'objectif, c'était de travailler avec eux sur un tournoi éco-responsable, où a été mis en place des navettes de bus, par exemple, pour aller chercher les habitants des communes locales, des consignes sur tout ce qui était restauration et buvette, venir en train pour les équipes qui se déplaçaient de loin. Voilà, des bars à eau qui ont été mis en place aussi, donc voilà, plein de petites initiatives, des brigades vertes, si on en revient sur le ramassage des déchets. Brigade Verte et puis aussi le tri des déchets qui est très important et qui était aussi primordial sur ces deux événements. Donc voilà, et puis désormais pour la suite on espère aller encore plus loin, trouver de nouveaux clubs adhérents, travailler davantage au quotidien avec ces clubs-là. Et voilà.
D'accord, très bien. Et donc, quelles sont les ressources que l'association met à disposition de nous toutes, en fait, pour nous éduquer sur le sujet ?
Alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fresque écologique du football, qui ça, on le fait plutôt avec des clubs de foot, mais récemment, je l'ai fait avec les éducateurs d'Ille-et-Vilaine, les éducateurs salariés par l'Ille-et-Vilaine, le département. On a aussi des stands, qui s'appellent des stands tous éco-supporters, qu'on déploie sur des événements, donc par exemple sur les deux tournois que j'ai parlé tout de suite, ou alors lors des JO. Et puis ensuite, on a sur notre site internet, on a un e-learning qui permet de tout savoir sur le foot et l'écologie en environ 2-3 heures. Et donc voilà, qui fait tous les liens avec des petites initiatives à la fin de chaque thématique. Donc voilà.
Très bien. Et ben, on est quand même à Rennes, on n'a pas parlé du Roazhon Park. Est-ce que c'est dans vos envies d'essayer d'aller faire un partenariat là-bas ? Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que c'est compliqué d'approcher les gestionnaires ? Comment ça se passe ?
Alors, on a déjà échangé avec la responsable RSE du Stade Rennais. Jusque-là, il n'y a rien qui a été abouti. Mais c'est vrai que l'idée, ce serait de pouvoir faire quelque chose comme avec le Stade Brestois, sachant qu'eux aussi, ils changent d'enceinte sportive, enfin de stade prochainement.
Bon, nous, c'est pas encore fait.
Mais oui, voilà. Mais c'est un bon exemple, le Stade Brestois. Et si on pouvait le reporter sur Rennes, ce serait bien, parce qu'on a aussi beaucoup de clubs partenaires du Stade Brestois qui sont devenus adhérents aussi de Football Écologie France.
Mais donc, d'ailleurs, quel est votre point de vue à Football Écologie France, particulièrement l'antenne de Rennes, sur le projet de destruction-reconstruction du stade ? On en parlait hier, je crois, dans 6 heures
avant-hier.
Ouais,
avant-hier.
C'est quoi votre point de vue sur le projet ?
Et pour moi, qui suis aussi supporter du Stade Rennais depuis que je suis tout petit, c'est quand même un endroit historique. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas plus que ça favorable à ce que ça change. Et en fait, c'est assez variable aussi, puisque tout dépend des résultats sportifs. Et là, comme on peut le voir actuellement, ils sont un peu moins bons qu'auparavant. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, les résultats en championnat sont moins bons. Donc, je suppose que le stade est beaucoup moins rempli en ce moment, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment en fonction des résultats sportifs. Et là, pour l'instant, si ça reste comme ça, l'éventualité d'avoir un nouveau stade, je ne suis pas sûr qu'elle émerge.
Et écologiquement parlant, ça ne se justifie pas trop non plus. Enfin,
ça dépend. Ça dépend de quel type de stade ils veulent en faire.
Ouais.
Donc oui, ça dépend.
Et on n'a pas parlé non plus au niveau des supporters. Comment ça répond de leur côté, vos actions ? Est-ce qu'elles sont comprises ? Est-ce qu'elles sont respectées ? Est-ce que les gens sont enthousiastes ?
Alors, les supporters, ce n'est pas les personnes les plus faciles à toucher. Quand on est sur des tournois, on arrive surtout à toucher les équipes en particulier. Mais on a des gens qui sont curieux, qui viennent nous voir. Et puis, on a aussi des bénévoles en France. Sur l'antenne de Rennes et sur toute la Bretagne, on en a une quinzaine. Au national, on en a à peu près 500. Donc voilà, les supporters peuvent aussi devenir bénévoles, et les supporters, souvent aussi, ça peut être des bénévoles d'associations sportives ou des parents. Et donc voilà, rien que de transmettre à leurs enfants ou au sein de leur club, c'est aussi déjà un pas engagé.
Et là, on a beaucoup parlé des clubs locaux, des petits clubs. Globalement, le foot, c'est un sport où les joueurs se déplacent beaucoup, par avion, pas forcément le plus écolo. Est-ce que vous savez s'il y a des initiatives qui sont mises en place au niveau de la FFF ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait, une volonté d'un peu changer les choses ? Ou est-ce que c'est quand même compliqué de concilier écologie et foot ?
Alors oui, en effet, le transport, c'est l'émetteur le plus important dans le foot. Est-ce qu'il y a des choses de fait ? Oui et non. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle par la LFP, du coup, donc c'est la Ligue des clubs professionnels, une licence professionnelle où il y a des critères lorsqu'on inscrit le club, où il y a des critères à respecter chaque saison. Donc aujourd'hui, il y en a 11% qui sont sur l'aspect environnemental, mais pas que sur le transport. Et donc, il n'y a pas besoin de remplir 100% tous les critères. Donc voilà, l'aspect environnemental peut être mis de côté. Après, il y a des initiatives qui sont prises. Aujourd'hui, le Stade Brestois, par exemple, ils ont pris le parti de se déplacer en bus sur tous les terrains où ils ont moins de 5 heures de trajet.
Okay.
Donc, ce qui représente la moitié du championnat français. Donc, le quart de leur déplacement. Donc, quand ils vont à Paris, ils vont en bus. Et puis après, moi, j'ai accompagné des petits clubs sur des initiatives. Par exemple, à Ergué-Gabéric, du coup, on a un parent qui fait le tour d'un quartier en vélo pour récupérer les enfants en vélo le mercredi et pour les emmener à l'entraînement.
Ok.
Et à l'inverse, les ramener chez eux après. Quoi.
C'est peut-être plus facile d'organiser les choses localement, en fait.
C'est ça, ouais. Souvent, les initiatives personnelles sont plus faciles à mettre en place. Et oui, c'est compliqué de devoir attendre aussi que les instances se mettent en place des choses pour se mettre en route, quoi.
Avant de... Tu voulais dire rajouter
Oui, je voulais rajouter un truc. Par rapport aux initiatives, il y a aussi Stadium Go qui existe. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des partenariats entre vous ou pas du tout?
Alors, partenariat directement, non. Après, oui, on oriente les clubs vers ce type de d'application ou du moins ce type de partenaire.
On peut expliquer ce que c'est Stadium Go?
Stadium Go, c'est une application qui aide les supporters à aller au stade, mais par covoiturage.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on est dans une démarche de transition écologique. Donc je sais qu'ils ont certains partenariats avec la LFP et certains clubs. Donc je voulais savoir s'ils pouvaient aussi faire un partenariat entre associations, puisque c'est le même but à la fin.
Oui, bien sûr. Non, on promouvoit en tout cas ce qu'ils font. Après, on n'est pas partenaire pour le moment. Mais oui, pas mal de clubs pro, dont le Stade Rennais d'ailleurs, sont sur Stadium Go. Ouais.
Okay.
C'est le blabla car des événements de foot.
D'accord. Avant de se quitter, peut-être les prochains rendez-vous de votre antenne, les événements à venir, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors là, on entre dans une période un peu plus creuse avec les fêtes de Noël, où il y a peu de matchs. Nous, au National, on va lancer une campagne de dons, avec notamment la sortie d'un maillot collector, du coup, pour les 5 ans. Donc la prochaine échéance, ça va être celle-là. Et puis nous, après, sur l'antenne de Rennes, ça va être de continuer à travailler avec les clubs et puis d'organiser aussi les événements de fin de saison, donc notamment les tournois et les deux tournois internationaux dont je parlais tout à l'heure. Et puis d'accompagner, continuer à accompagner au quotidien les clubs, quoi.
Bien, merci Ulrich Marchand d'être venu sur le plateau de 6h avant minuit.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On enchaîne avec la chronique ciné. Gwen, c'est quoi le programme ce soir?
Alors, je comptais vous parler de L'Amour Ouf aujourd'hui, mais sûrement, comme beaucoup de personnes, vous en avez marre d'en entendre parler.
Ouais.
Oui. La dernière fois, c'était Terrifier 3 qui a été évoqué. Donc, je vous propose de rester dans la thématique horreur et c'est The Substance qui sera à l'honneur.
Oui.
Trop bien.
Ce long métrage. Gros coup de cœur de l'équipe de Syllab.
Ouais, vous l'avez vu. C'est un petit banger.
Et apprécié.
Apprécié. Bon, bah justement, on en parle. Donc ce long métrage est interdit au moins de 12 ans et il a été réalisé par la française Coralie Farja. Bon alors, il parle de quoi? Elizabeth Sparkle, incarnée par Demi Moore, est une célébrité de la télévision. Elle anime désormais une émission d'aérobic et montre à tous et toutes que les années ont beau passer, elle reste jeune, jolie et sportive. Pourtant, son producteur, Harvey, veut la remplacer. Le motif? Donner au public ce qu'il veut, de la fraîcheur. Hors de question pour Elizabeth. Mais la chance lui sourit, un produit va lui permettre de retrouver sa jeunesse, mais ce n'est que le début du cauchemar.
Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête.
Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance.
Je suis sous.
Vous êtes engagé.
Let's go.
Une alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vous n'êtes qu'une.
Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance.
Non ! Cette alternance ne fonctionne pas du tout ! Il faut que tu te contrôles ! Elle est vieille, grosse, dégueulasse !
Adorez ça.
Ça a l'air pas mal, hein.
Tout un programme.
Et c'est pas pour rien que le Festival de Cannes a sacré The Substance, prix du meilleur scénario. Et si on s'intéresse aux critiques presse, on constate qu'il a reçu pas mal d'éloges. Par exemple, France Info écrit « Avec ses décors superbes, son interprétation remarquable, sa photo et ses effets spéciaux de grande classe, The Substance réunit tous les atouts pour séduire les amateuristes du film de genre. » Ou encore celle du magazine de cinéma Bande à Part. Pour film politique, coup de force féministe jusqu'au boutiste, monstrueux, décapant et régénérant. Il est sans conteste l'un des meilleurs body horror movies de ces 30 dernières années. Un film qui s'inscrit dans le sous-genre du body horror, apparemment. Vous connaissiez ?
Oui.
Bof. Et donc j'ai découvert la chose en faisant mes recherches. Le body horror, ce sont des films qui représentent à l'écran des modifications, déformations, voire même des désintégrations du corps humain, mais plutôt du côté de la science-fiction que du réalisme. Ça vous rappellera peut-être le film Titane de Julia Ducournau. Et donc Coralie Farja définit l'horreur corporelle comme, je cite, « ce côté expressif du corps qui permet de parler de choses très sérieuses tout en les dédramatisant complètement et avoir ce truc de digestion où on peut se laisser aller à rire, à vivre l'expérience. Pour moi, ce genre c'est très lié à l'humour. » Dans The Substance, le gore est un média qui traite d'une thématique qui fait largement écho à notre société. Vieillir est un sujet tabou, mal vu, encore plus chez les femmes. Visiblement, nous ne sommes pas comme le vin, nous ne nous bonifions pas avec les années. Non, sérieusement, il suffit de compter le nombre de pubs pour crème anti-rides pour constater que prendre de l'âge serait la pire des choses qui puissent nous arriver. Pardon, je risque de vous décevoir, mais on vieillit tous et toutes.
Oh,
incroyable.
Non, je suis choquée, non.
Révélation. Non. Coralie Farja, avec son scénario, illustre merveilleusement bien cette dictature de la jeunesse éternelle. Tous les jours, sans interruption, Elisabeth s'injecte un produit pour se transformer. Petit à petit, elle ne s'appartient plus. Elle devient totalement dépendante de cette substance, une métaphore de toute cette discipline quotidienne que s'infligent certaines femmes, entre maquillage, sport, médicaments, régime, chirurgie esthétique. Cette soi-disant chance n'est en fait qu'un leurre. Elisabeth est tombée dans la spirale infernale d'un système. Système qui la chosifie. Et le philosophe Lukács dirait même qu'elle est réifiée, ce qui n'est pas anodin dans notre société moderne. Bref, la société, le public et le producteur Harvey ont fait d'elle un produit. Demi Moore s'est exprimée dans C'est à vous le 5 novembre.
Je crois que, alors la manière dont je perçois les choses, c'est que oui, il y a des standards imposés par la société, mais il y a aussi une conscience collective que nous avons acheté, accepté, que des personnes d'un certain âge sont mises de côté. Et à mon avis, si on veut vraiment apporter un changement, ça passe par la façon dont on se comporte. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais quand on change de l'intérieur, vraiment, lorsqu'on soutient ses valeurs, lorsqu'on voit notre beauté et que l'on apprécie tout ce que nous sommes, comme nous sommes, eh bien la société à l'extérieur changera aussi. Mais il faut que ça commence par nous.
Je ne sais pas vous, mais ça fait du bien d'entendre ça. Les choses ne sont pas figées et peuvent encore changer. Pour les auditeuristes qui préféraient un film beaucoup plus léger, vous pouvez regarder Moi belle et jolie. Il critique aussi ce diktat de la beauté. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller voir The Substance si vous avez le cœur bien accroché. Il est sorti dans les salles obscures le 6 novembre, donc vous avez encore le temps d'aller le visionner si ce n'est pas déjà fait.
Et oui, merci Gwen, et donc il est à voir à l'Arvor, hein, à Rennes. Trigger warning, petit avertissement. donc c'est 21 000 litres de sang, je crois que ça bat tous les records du monde, de l'histoire du cinéma, du sillon, de faux sang,
voilà. De l'univers,
je précise. Si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas les aiguilles, n'y allez pas.
Ça a été
ça servira à rien. Ouais, moi ça va. Okay.
Ou alors mais le sac à vomi est à prendre.
Mais les aiguilles, c'est littéralement tout le film. Genre, je crois que le premier plan, c'est une aiguille.
Oh. Ouais, dans l'œuf, là. Ouais. Oh.
Donc, si vous n'aimez pas les aiguilles, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà, mais en tout cas, sinon, bah, courez-y. Un dernier petit message avant de se quitter.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô,
allô.
La radio sauvage.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons un répondeur téléphonique à 6h avant minuit.
Non.
Ce répondeur, c'est pour vous, auditeurs, auditrices, citoyens, citoyennes. C'est une tribune pour vous. Vous pouvez nous laisser un message et nous dire vraiment tout ce que vous voulez, tant que ça reste dans les limites de la légalité.
C'est nos cahiers de doléances.
Voilà, allez-y, lâchez-vous. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On diffusera votre message à la fin de l'émission de 6h avant minuit. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Timothée, le master of the technique. À lundi.
Quelle heure est-il ?
Il est 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe,
la radio sauvage.